du chapitre 41 au chapitre 44, verset 17.
Bien, oui. Bon, cette question nous ramène quand même à la paracha de la semaine dernière. Je ne me rappelle pas, qu'est-ce que nous avons traité la semaine dernière? Oui, et je pense que nous n'avions pas terminé, on n'avait pas eu le temps de terminer. Enfin, si je me souviens bien, je vous ai indiqué qu'il y avait deux récits qui s'en connaissent dans la paracha précédente. Le récit de Joseph d'abord, qui est le gros plan du récit juste à la fin, au milieu de Bereshit. Et puis le chapitre 38, qui est une sorte de parenthèse, qui met déjà en place un récit concernant l'histoire de Judas. La question que j'avais étudiée la dernière fois, c'est pourquoi, enfin, comment comprendre que Jacob semble se retrouver plus chez Joseph que chez les autres frères. Et vous avez dit deux midrashim, si je me souviens bien, c'est bien ça, dans le midrash rabbin, à ce sujet. Et je crois que vous pouvez résumer ce premier problème par lequel je vais commencer, puisque il s'agit encore des textes de la dernière fois, de la manière suivante. J'ai souvent expliqué ça de cette manière, et je crois que c'est important de l'avoir très clairement à l'esprit. Vous vous rappelez que nous avons souvent rencontré ce thème, qu'il y a deux périodes d'identité radicalement différentes dans l'histoire d'Israël. La période des pères et la période des fils. Vous vous rappelez de cela, je l'explique très rapidement pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette étude. La Torah s'adresse aux bénis d'Israël. il faut que la descendance des patriarches, et je ne dirais plus patriarches encore ce soir, je dirais les pères, la descendance des apôtres, des pères, se constitue en nation, et c'est à partir du moment où elle se constitue en nation que nous avons le point de référence de la révélation. Tout ce qu'il y a avant nous est donné comme introduction à ce qui commence au moment où la descendance des apôtres, d'Abraham, Isaac et de Jacob, à travers la sélection d'identité que nous avons subie succinctement au moins, se constitue en clan, en nation, en collectivité. Rappelez-vous de façon très simple que le verset clé de la Torah et de la prophétie est « Baber et Béné Israël ». Et il faut prendre donc cette expression très littéralement, parle aux enfants d'Israël. Cette unité de l'exil, cette expression, les enfants d'Israël, désigne la descendance des apôtres, en tant que la descendance des apôtres est devenue une collectivité, un peuple, avec les attributs d'une nation. C'est clair jusqu'à ce. Alors pourquoi c'est important d'abord de le remarquer, et ensuite que signifie la remarque elle-même? Eh bien, parce que l'histoire que raconte la prophétie de la Bible, et en particulier le récit historique de la Torah, c'est l'histoire de la recherche d'un salut à travers l'histoire de l'humanité tout entière. On commence par un premier enseignement qui est le postulat de tout le récit, c'est que l'humanité tout entière forme un seul ensemble, forme un seul corps, si je veux dire, une seule histoire. Ça commence avec Adam Harishon, qui est le principe de l'identité humaine pour l'universel humain. Et l'histoire des aveux prend le récit en cours de route. Il s'est déjà passé énormément d'épisodes, énormément de tentatives de civilisation en échelle universelle. La Torah nous raconte pour l'essentiel de son objectif qui est de donner une préface à l'histoire d'Israël, l'essentiel dans telle ou telle lignée, quels sont les progrès depuis le premier homme jusqu'à Abraham, mais quels sont surtout les impasses d'échec et quel est le problème dont hérite cette identité humaine qui émerge avec Abraham et qui deviendra Israël. Alors il est important de mettre en évidence que nous n'avons pas du tout ici l'histoire d'un récit qui se cherche des héros exemplaires, lesquels auraient pu être fondateurs d'une tradition religieuse de prétention universaliste, mais comme un héros qui donnerait sa propre aventure individuelle comme modèle à des disciples. Il ne s'agit pas du tout de cela dans le récit que nous avons maintenant. Et d'emblée, dès qu'on comprend cela, on voit qu'il y a de nouveau à reprendre cette expression qui est pas simple, qui est polémique, enfin, qui est irritante pour le type de culture auquel nous sommes habitués dans la culture occidentale. Il y a deux manières d'être homme, il y a Israël d'un côté et tous les autres de l'autre, en particulier pour ce sujet. Dans toutes les autres traditions, je ferai une exception peut-être pour l'islam, mais en fait, on prend le temps pour voir en quoi c'est une exception, nous allons comme pour celui-là que c'est quand même une exception. Partout ailleurs, il y a un héros exemplaire qui va servir de modèle personnel à une expérience religieuse, une recherche du salut. Je pense que c'est suffisamment clair, pas la peine de mettre les points sur les i, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Dans le phénomène des sectes qui est tellement grave, dangereux et répandu de notre temps d'ailleurs, indépendamment des grandes religions classiques, qui ont aussi un espèce de héros légendaire comme fondateur présentant son modèle propre à l'imitation de leur seigneur, il y a un phénomène extrêmement massif de notre temps, vous savez, c'est pas seulement en dehors d'Israël, même en Israël, ce phénomène est inquiétant, et on voit toujours le même processus, le même comportement, c'est-à-dire un être d'exception, en mettant toutes les guillemets que vous voulez autour de ce terme d'exceptionnel, qui se présente comme modèle à l'imitation. Normalement, vous devez déjà avoir une objection contre ce que je dis. Mais enfin, on va le reprendre tout à l'heure. D'accord. Mais on rentre dans le même sujet, dans le fond du sujet. Pourquoi? Parce que ce qui se cherche, ce n'est pas le salut d'une élite. Même si, pour reprendre ce jeu de mots qu'on peut faire en français, c'est ce qui est promis au peuple juif. Il sera élite. Mais prophétie de la langue française. Mais ce qui se cherche, ce n'est pas le salut des élus. Et je pense que c'est clair. Je crois que élite et élite, c'est le même terme d'ailleurs. Ce qui se cherche, c'est le salut de la création du Créateur. Donc, ça se cherche à l'échelle universelle.
Donc, si nous étions dans une tradition non hébraïque, alors il aurait suffi d'un héros comme Abraham, et puis aussi pourquoi pas Isaac, Jacob et tous les autres, pour avoir dans les synagogues la chapelle de Saint Abraham, la chapelle de Saint Jacob, etc. Vous voyez la différence entre les perceptions. Et l'histoire du salut aurait été scellée par le fait qu'un homme aurait réussi et se serait présenté en modèle à l'imitation. Mais finalement, à la limite, qui serait sauvé? Les imitateurs, c'est-à-dire les disciples du modèle. Et c'est parce qu'ils se cherchent dans l'expérience religieuse. C'est fait décrite par la Torah et qui commence par le postulat qu'il y a un créateur qui a créé un monde et c'est l'histoire de ce monde à l'échelle universelle qui est en question. C'est clair jusque-là? Or, c'est pourquoi il faut attendre que cette identité qui se forge, qui s'engendre, qui émerge à travers l'histoire des patriarches, enfin des apôtres, des engendreurs, devienne une nation à l'échelle collective, mais c'est à l'échelle collective qu'elle peut être déléguée de l'humanité en tant que collectivité, ce que les individus ne peuvent pas représenter. Fut-il authentique, des salutismes authentiques comme Abraham, Isaac, Jacob et les autres de l'histoire d'Israël. À partir de chacun des piliers de l'histoire d'Israël, il n'y a pas que sept, comme vous les connaissez, je vais les rappeler rapidement, mais il y en a Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, David et Shlomo, parce que dès qu'on arrive à David, qui est le septième, on attend le huitième déjà, alors on sait toujours David et Shlomo, ça peut lui dire. Et il y en a, à la limite, il y a dans la Gemara de Sanhedrin, dans le chapitre 11, on recherche le nom du Mashiach, et puis ensuite des versets, pour appuyer le fait que dans Tel Yeshiva, on disait que le Mashiach s'appelle comme ça. Il y a un verset qui montre que le Mashiach s'appelle comme ça. Et si ça vous intéresse, je pourrais utiliser la partie mais vous de mémoire. Quand on entre Yeshiva, il s'appelle autrement parce qu'il y a un verset, et puis, non, mais parce que tout simplement le Rosh Yeshiva s'appelle autrement. C'est-à-dire, on donne là-bas quatre exemples, et si on prend les rachetés des quatre noms qu'on nous propose, ça fait le mot Mashiach. Il y a Menachem, il y a Shiloh, il y a Yanaï, et Inon, c'est dans Hanukkah. Il y a Inon, et il y a. Ah, on va voir Hanani. Il va falloir tirer le livre. Enfin, vous le vérifiez de la base dans le chapitre 30. Ça veut dire qu'à la limite, chaque partie, chaque tribu, chaque ensemble, à quelque niveau que ce soit, de l'identité d'Israël, a sa figure de proue qui est dans le sens même de ce qui se cherche à l'échelle collective. Mais jamais, 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 il n'y a eu ce comportement de l'expérience religieuse de Goïm qui consiste à considérer que le salut est acquis dans l'expérience de l'individu fut-il exemplaire et qu'il suffit de l'imiter pour être clair jusque-là. Donc c'est important de comprendre cela, qu'il faut que Israël soit constitué en nation pour que commence ce temps des enfants d'Israël à laquelle la Torah s'adresse. D'une certaine manière, à condition de bien comprendre le terme que je vais employer, l'histoire des Avot, c'est la préhistoire d'Israël. Il n'y a aucune commémoration de commencement qui ferait que l'histoire d'Israël commence à la commémoration de l'histoire d'Abraham. Alors que l'histoire d'Israël commence comme telle à la sortie d'Égypte. Enfin, c'est l'événement fondateur de cette histoire, en tant que collectivité. Voilà donc ce que je voulais dire en très brève introduction, mais vous allez me rappeler pourquoi j'ai parlé de ça. Et de quoi il s'agissait juste avant tout ce problème. Je vais prendre des notes. Mais pourquoi j'ai quitté ça? Je voulais répondre à vos questions, mais comment ça se fait? Non, attendez, il y a une charnière qui m'échappe, non, ça ne reviendra pas.
Je veux dire,
à propos
de l'histoire de Judas, que c'était une parenthèse dans la
charnière. Oui, mais je ne retrouve pas la
charnière. Vous voyez l'histoire de...
Non, c'est pas grave, ça ne reviendra pas tellement, comme vous savez, j'ai des problèmes de mémoire, mais ça me reviendra. Ok? Oui, mais pourquoi je parle de ça?
Non, je reviens à ce dont vous parlez. En vous donnant une formule qui pourra peut-être, malgré tout, permettre d'appuyer cette analyse, c'est que l'identité de père est attribuée à ceux qui sont capables de récapituler en eux toute l'identité antérieure. Alors que l'identité fils est attribuée à ceux qui sont capables d'être fidèles au projet des pères. Est-ce que vous avez peut-être ce que vous voyez ça dans le déroulement des générations? Alors, un stade d'identité père, c'est celui qui a été capable de récapituler tout ce qu'il y a avant lui. Natal sera kulam, dit la Mishnah. Il hérite, non, pas il hérite, il récapitule, on peut dire ça comme ça, le mérite de tous les démons. C'est-à-dire, à la limite, l'histoire que raconte la Torah aurait pu commencer à Abraham. Elle commence avec le premier homme, de nouveau sur notre sujet, pour indiquer l'objet universel de ce que cherche cette histoire. Eh bien, ça ne commence vraiment qu'au stade des bénis d'Israël, au stade des filles d'Israël. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parlais de ça comme introduction, mais ça devait être justement lié au sujet. Oui, mais ça c'est à l'intérieur de la même analyse. Oui, tout ça c'est à l'intérieur de la même analyse. Mais l'analyse elle-même, pourquoi elle est venue là? Comme introduction à quoi? Non, ça c'était des questions de détail. Bon, enfin. C'est vrai, il faudra c'est. Hein? Oui, il faudrait écouter la bande, mais ça nous prendra trop de temps. Enfin, si ça vous revient, rappelez-moi. En général, ça me revient après. Et en tout cas, je continue cette introduction que je voulais faire assez brève. Pour revenir directement à notre paracha, et ensuite on se rapprochera de vos questions. Enfin, je les ai notées, je vais vous dire. Et dès qu'on commence à lire l'histoire de Joseph en Égypte, c'est-à-dire dans notre paracha de Nekhet, à partir du chapitre 41, alors on a quand même l'impression, j'espère arriver à exprimer ce que je veux dire de la façon la plus simple, qu'on lit quand même un conte merveilleux, pas un conte, mais un récit merveilleux, dans le sens étymologique du merveilleux. C'est-à-dire quelque chose qui ne se passe pas dans la vie quotidienne. Ça a l'air d'être un conte de fées, si vous voulez, pour porter les choses à la limite. Voilà l'histoire d'un enfant qui a été vendu comme esclave, qui finalement a fait ses premières armes dans la cour du pharaon d'Égypte, et après les péripéties qu'on nous a racontées dans la paracha précédente, en fin de compte, il se trouve être enfermé dans un cachot. J'emploie intentionnellement le terme de cachot, ça fait partie du vocabulaire des contes de fées. Bon. Nous irions plus historiquement à un camp de concentration. Donc on y reviendra tout à l'heure. Et puis voilà que le pharaon se met à rêver. Alors, comme encore une autre indication de merveilleux, personne n'arrive à expliquer le rêve du pharaon. Alors, le rêve du pharaon, excusez-moi, mais vous avez dû remarquer qu'un petit enfant du Tanitora pouvait expliquer le rêve du pharaon. Bon, on profite bien sûr de l'explication qu'a donné Joseph et de la grande familiarité qu'on a à travers les siècles avec l'explication de ses rêves. Mais de toute façon, c'est un autre problème. Même quelqu'un qui n'aurait pas de culture biblique, n'aurait pas de mémoire de Talmud Torah, en lisant le récit de ses rêves, aurait au moins l'hypothèse qu'il s'agit que le pharaon est bref, le risque d'un dérèglement de l'économie de son pays. Il voit d'abord des années d'abondance et ensuite des années de famine. Et c'est un point qu'il faut éviter. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait besoin de Joseph dans le récit pour expliquer quelque chose d'aussi élémentaire apparemment, surtout le fait que les savants de l'Égypte, nous les appelons dans notre vocabulaire du Midrash les sorciers de l'Égypte, mais disons les mages, n'arrivent pas à expliquer ces rêves-là. Je vais parler de ce point particulier très rapidement. Le Midrash nous dit que les savants conseillers du pharaon avaient à leur disposition toute une série d'hypothèses d'explication de ces rêves, mais ils ne pouvaient pas envisager l'hypothèse de Joseph, l'explication réelle qui, elle, troublait la conscience, l'inconscient du pharaon, puisqu'il sentait lui-même qu'il n'était pas satisfait par les explications que ses sages lui donnaient. Vous comprenez les données du problème. c'est que la conscience égyptienne, étant donné sa religiosité forte, était conditionnée de manière telle que l'hypothèse explicative de Joseph était par définition une hypothèse absurde. L'économie ne se dérègle pas lorsque la divinité principale de l'Égypte qui règne sur l'économie s'appelle le Nil érigé en divinité. Il n'y a qu'à faire une échappée très très rapide sur ce qu'on pourrait appeler la mentalité orthodoxe des sociologues marxistes, soviétiques, excusez-moi, qui est encore aujourd'hui à la radio, une fois de plus. On nous a raconté que quelqu'un qui n'admet pas les normes de la société soviétique est envoyé en asile psychiatrique. Parce que s'il n'admet pas les normes de la société soviétique, c'est sûrement qu'il est fou. Vous savez qu'il y a là quelque chose d'incompréhensible de la conscience occidentale. Et malheureusement, on a fini par s'y habituer. Quoique il y a eu des réactions de je sais pas si celle en fait de la conscience morale occidentale. Il y a eu quand même des réactions. Mais ça me rappelle ce qui s'est passé au Moyen-Âge, au temps de l'Inquisition, c'était la même mentalité. C'est-à-dire que les prêtres, qui d'autre part étaient absolument capables de faire des sermons sur la mort du prochain et tout ce que vous voudrez, finalement étaient persuadés qu'il fallait sauver ces pauvres mécréants en les brûlant. Parce qu'il fallait les sauver. Et que s'ils ne croyaient pas dans le dogme de l'Église catholique, c'est qu'ils étaient fous. Et donc, ils pouvaient faire quelque chose pour eux. Vous venez le genre de mentalité. Il y a une sorte, de cristallisation, de crispation, comme on pourrait dire, d'une certaine orthodoxie des pensées qui fait que l'explication la plus simple qui pourrait résoudre tel ou tel problème qui se pose dans le courant de l'histoire est rejetée a priori comme absurde, comme impossible, comme blasphématoire, comme à traiter dans un asile psychiatrique. Vous comprenez ce que je dis ? Or, effectivement, lorsqu'on analyse, d'après les données du Midrash pour nous, et aussi d'après les données de l'histoire des religions, on s'aperçoit que le type de religiosité de cette époque était précisément ce que je vous appelle une orthodoxie de pensée. Je veux dire que ce terme d'orthodoxe peut devenir des traductions authentiques. Dans la société de vous, quand on dit de quelqu'un qui est orthodoxe, c'est censé dire qu'il est sadique. Okay. Et dans les communautés traditionnelles, un sadique ne disait pas de lui qu'il était orthodoxe. Parce que l'orthodoxe, c'est un projet. Et vous connaissez l'étymologie du mot orthodoxe. Ça veut dire suivre la voie droite, littéralement. Deux mots qui viennent du grec, qui signifie orthodoxia, l'enseignement droit. La doctrine droite. Mais alors, c'est un peu, je veux dire, le fait de se définir comme ça par une étiquette sociologique, c'est un manque d'humilité. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il y a à mettre en évidence le danger de ce qu'on pourrait appeler l'esprit d'orthodoxie. L'esprit d'orthodoxie, c'est lorsque on se fixe sur une idéologie, et si la réalité dément cette idéologie, c'est la réalité qui a tort, c'est elle qui est folle, au nom de l'idéologie. Alors ça vous dit tout de suite au totalitarisme. Vous comprenez le problème. Eh bien, il y avait une conception religieuse de base, c'est que la vie de la société humaine, à la manière de la vie biologique dans le chez les espèces animales, est soumise à des lois de nature qui, comme toutes les lois de nature, n'ont pas d'exception. Il y a donc une régularisation du comportement de la société humaine par des divinités qui ont été caractérisées à cette époque dans des styles différents suivant les continents, mais qui finalement reviennent dans l'essentiel fondamental, les lois de la nature érigées en divinité. Et cette même mentalité, on la retrouve, c'est pourquoi je vous ai cité ce cas de la sociologie des sociétés soviétiques, dans le matérialisme dialectique. À partir du moment où on a un principe déterministe aussi absolu, projeté à l'échelle de la vie dans la société humaine, dans les faits sociaux, dans le phénomène humain, alors il y a incapacité de tenir compte du facteur liberté. Et ça vous explique un peu l'analogie que nous pouvons faire entre deux types de mentalités. J'ai beaucoup schématisé ce problème, mais il est bien évident qu'il apparaîtra un jour clairement que cette mentalité du laïcisme idéologique matérialiste dialectique, en particulier, ou même pas dialectique d'ailleurs, c'est finalement la conscience païenne laïcisée. C'est-à-dire que c'est le même fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle le pharaon n'arrive pas à comprendre son rêve, et surtout que les sages qui sont autour de lui n'arrivent pas à lui donner une explication qui le satisfasse. Et voilà un exemple de l'explication que le Midrash cite au nom des sages de l'Égypte. Tu auras sept filles et puis elles vont mourir. Tu vas gagner sept guerres et ensuite tu vas perdre sept guerres. On pourrait faire l'analyse des contenus de ce Midrash, de ce Midrashi, mais finalement l'idée que l'économie puisse se dérégler, alors que c'est dit chat, c'est dit à livre ouvert, à rêve ouvert, si je veux dire, bon, de ne pas faire d'effort pour expliquer ça, ça ne peut pas être plus difficile. Alors c'est pourquoi la Torah va nous indiquer que Joseph est nommé très précisément à cette occasion Narah Ivri, un enfant. Narah, c'est pas un enfant, disons un adolescent hébreu. Ça veut dire qu'il faut l'identité hébraïque pour percevoir cela, que le monde n'est pas soumis à une fatalité aveugle du comportement impersonnel. C'est le choc de deux montagnes. Alors là, je comprends déjà l'importance de la différence. Ça va commencer un peu à détendre cette impression de merveilleux que nous avons dans le récit. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que c'est un pharaon qui rêve. C'est pas n'importe quel pharaon. Voilà, il arrive là que le pharaon rêve. Alors que les rêves, c'est les patriarches qui rêvent. Maintenant. Bon, donc je vais partir de cela pour la valise. Ah, ça, vous avez une question?
Oui, je suis d'accord dans cette question. Comment est-ce que le pharaon est le sérieux de l'utilisation de l'humain? Il est resté incontrôlable.
Oui, parce qu'il l'a entendu. Je vous donnerai tout à l'heure l'exemple de la psychologie contemporaine. Quelqu'un qui est l'objet d'un trouble psychique, et ici, patipae mokho, ça veut dire, c'est vraiment la définition du complexe. C'est-à-dire que son esprit était comme une cloche qui résonnait à cause d'un noyau dur qui la faisait d'être résonnée. Eh bien, il peut avoir un certain nombre d'hypothèses, mais surtout, il y a un phénomène de refoulement qui joue, et il faut que quelqu'un le lui fasse dire. La formule du Talmud qui parle de l'explication des rêves, c'est que l'explication du rêve relèverait à la paix, vient d'après la manière de raconter le rêve. Et vous comprenez ce principe. Voilà sur quoi, justement, ça relie le point de l'analyse où vous me trouvez. Ça veut dire que ce pharaon n'est pas n'importe qui. Je vais préparer un dossier d'érudition très minutieuse concernant peut-être qu'on fera ça un jour en séminaire, concernant les dynasties égyptiennes. Un de mes élèves a fait un travail colossal pour l'étudier, toutes les dynasties telles que les présentent les historiens de l'Antiquité, pour arriver à se rendre compte qu'il y a un bilboul, comment dire, un flou, en tout cas, dans tout ce qu'on raconte à ce sujet, puisqu'il n'y a aucune trace du passage des Hébreux en Égypte d'après les égyptologues. Alors finalement, il a restitué de quel pharaon il s'agit, le pharaon de Joseph. Si je me rappelle bien, il s'appelle Épiphre Mithra. Et puis, c'est un pharaon qui a vécu 90 ans, qui a régné 90 ans. Et alors, le fait de situer cette généalogie, finalement, ça redistribue complètement les correspondances de calendrier entre le calendrier hébraïque et le calendrier universel. Enfin, ça fait plusieurs fois que je lui demande de préparer une conférence ou un séminaire pour cela. Je me remets par temps public, alors c'est très difficile d'arriver à le décider, mais je crois que je finirai par le décider. Je veux dire que là, il y a un phénomène qu'il faut caractériser. Ce pharaon nous est très sympathique. Et vous avez remarqué à quel point il va se cacher, il va s'effacer derrière Joseph dès le moment où il va l'installer sur le trône, encore un autre élément de merveille. Alors je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce n'est pas n'importe quel pharaon, c'est un pharaon qui rêve. Ça veut dire qu'il est presque candidat à l'identité hébraïque. Alors je vais vous parler sur un des rêves antérieurs, pas le rêve de Joseph, mais le rêve des ministres du pharaon, mais le rêve de Jacob. Et je vous l'avais souvent cité, mais je crois que c'est quand même très important de comprendre. Les versets qui en parlent ici. Bayahalom, Beine, Sulam, Moussav, Arta, de Rosho, Magia, Hashamani. Et il rêva, et voici une échelle dont le bas de l'échelle était en direction du sol, touché pas le sol, mais en direction du sol, et le haut de l'échelle, Magia Hashamaima, arrivait jusqu'au sol. Et là, les Midrashim donnent toute une série d'explications. Qu'est-ce que c'est que cette échelle? Qu'est-ce qui est représenté par ces anges qui montent et qui descendent? Parce que vous avez remarqué, Malachi Elohim, Olim, Veyordim, Bo. C'est-à-dire que c'est un ordre inhabituel, enfin, auquel on ne s'attend pas du tout. Si déjà on parle d'anges, alors il faudrait peut-être les voir d'abord descendre du ciel pour remonter ensuite, mais là, le verset nous dit l'inverse, les anges montent et descendent. Alors, le Midrashim donne un certain nombre d'explications. Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela signifie? Et tout ce qu'il cite comme explication, ce sont des réalités qui sont entre le ciel et la terre. Des réalités de communication entre le ciel et la terre. Pour schématiser le problème, nous entendons ça par postulat. Il y a des époques, et depuis la destruction du temple, du premier temple, nous sommes dans une de ces époques où semble-t-il l'horizon qui relie le ciel et la terre en réalité les sépare, c'est bouché. Il ne se passe rien, apparemment. Et nous avons une mémoire des traditions, en particulier la tradition de la Bible, qui nous parle d'un temps où il y avait communication. Donc il y a des temps où il y a communication, il y a des temps où il n'y a pas communication. À moins de considérer comme des légendes tout ce dont les traditions ont parlé, et je crois qu'il y a une seule tradition, finalement on a été réfractaire à ce postulat de légende, c'est bien la tradition juive. La Bible ne parle pas de légendes, même si ceux qui sont déjudaïsés y pensent comme si c'était des légendes, parce que la Bible parle de l'histoire concrète, d'un peuple historique concret qui se passe comme elle le dit. Et vous comprenez ce que je dis, bon, c'est un sujet pour lui-même. Et si c'est nécessaire, je reviendrai sur cette analyse, mais prenons comme postulat que c'est le titre d'un des livres des archéologues du siècle dernier, que la Bible a duré. La Bible a duré, pas parce qu'on a trouvé des stèles de tel ou tel peuple de l'Antiquité qui font allusion à ce dont parle la Bible. La Bible a duré parce que il y a une révélation qui concerne l'histoire d'un peuple et sa mémoire. Et ce n'est que parce qu'on risque de perdre la mémoire qu'on a besoin de livres écrits ou de stèles gravées. Mais si on avait des livres écrits ou de stèles gravées, que le peuple ait disparu, il n'y aurait plus de mémoire. Je pense que c'est clair. Je vous rappelle que ce qu'on a peut-être étudié à propos de Hanouka, c'est la raison pour laquelle l'histoire de Hanouka n'a pas été mise par écrit. Vous vous rappelez de cela? Parce que l'objectif des Grecs était d'annuler cette mémoire. Et si on avait mis par écrit l'histoire de la victoire des Maccabées contre les Grecs, eh bien ça aurait signifié que les Grecs avaient gagné leur objectif. On en aurait fait un livre. C'est pas facile à comprendre directement, mais vous réfléchissez bien à cette thème-là. Indépendamment des raisons concrètes que l'on peut citer, sont nombreuses. Pourquoi la tradition n'a pas de livre concernant Hanouka, c'est une des raisons les plus profondes que l'on peut mettre en évidence. Eh bien, voilà donc que le Midrash nous explique ce qui se passe apparemment dans ce rêve par des phénomènes qui, d'autre part, sont décrits dans la Bible comme étant des phénomènes concrets, réels. Le phénomène de la prière, qui est aussi dans ce sens-là. Quelque chose monte de l'homme vers Dieu et redescend de Dieu vers l'homme en exaucement de prière. Le phénomène de la prophétie, quelque chose qui descend de Dieu vers l'homme et remonte de l'homme vers Dieu en prière. Le phénomène des sacrifices, le phénomène de la communication entre le ciel et la terre. Ça va jusque-là? Alors, je crois que ce verset nous indique l'importance du rêve dont parle la Torah. Le Talmud, en parlant du rêve dont parle la Torah, dit le rêve est le 60e de la prophétie. Alors, bien entendu, ça veut dire qu'il y a deux catégories de rêves. Il y a une catégorie de rêve qui est purement onirique, c'est-à-dire un déroulement d'image, qu'on appelle les hirurim, on traduit ça en français, les préoccupations de la journée reviennent dans la nuit sous forme d'images codées, si je veux dire, et ça peut être facilité si on a une digestion difficile. Mais il ne s'agit pas de ce rêve-là, il s'agit du rêve que je vais essayer de vous décrire d'après ce verset. Le verset n'a pas dit « Maya Halom » ou « Bahalomo » sous la. Le verset n'a pas dit « il a rêvé » et dans son rêve, il a vu une échelle. Le verset a dit « il a rêvé, alors il y a eu une échelle. Okay » C'est-à-dire, comme il était capable de rêve, alors il y a eu communication entre le ciel et la terre. Et cette communication, c'est quoi? Alors le Midrash dit « c'est la prière, c'est le sacrifice, c'est la prophétie. » Mais ça se passe dans la réalité, ça se passe pas dans le rêve. Alors qu'est-ce que c'est le rêve? Bien, le rêve, c'est cette capacité préface à la prophétie, le pressentiment
du projet du Créateur. À quoi on rêve ? On rêve à ce que Dieu a voulu que notre existence soit. Et même si on ne sait pas que c'est dans ce terme-là que ça se pose, le rêve dans ce sens-là, c'est de cette nature. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Ça va jusque-là ? On a remarqué, et je ne citerai que cela parce que le livrage que j'ai en mémoire, que j'ai l'esprit beaucoup plus ample que cela, c'est que le rêve a été comparé au pain. Le pain pour le corps et le rêve pour l'esprit. C'est le même lettre. Les rêves pour l'homme. Il y en a d'autres d'ailleurs, à tous les niveaux de manière claire. Mais déjà ces deux-là sont très significatifs. De la même manière que le corps a besoin de l'echem pour exister, l'esprit, sa nourriture, c'est le chalom. Et donc, voilà que nous avons affaire à un pharaon qui rêve. Alors, tout ce que je voudrais vous citer, du point de vue des généalogies des dynasties égyptiennes, c'est que les historiens, grosso modo, et je vous promets qu'on va essayer de mettre un séminaire secret là-dessus, les historiens, grosso modo, parlent d'un changement de dynastie à un certain moment de l'histoire de l'Égypte et de l'installation d'une dynastie monothéiste. Vous avez ça. Bon. Pardon ? Non, les Hyksos étant des envahisseurs de l'Égypte à ce moment-là. Bon. Mais les Hyksos ne sont pas des Égyptiens. Ou alors, les historiens de la religion en profitent d'ailleurs pour dire que les Hébreux n'ont rien inventé, et que précisément ils ont appris le monothéisme de cette dynastie monothéiste égyptienne. Vous voyez comment les historiens travaillent. C'est-à-dire pour expliquer quelque chose qui leur apparaît être comme un mystère, alors ils inventent un autre mystère beaucoup plus difficile à expliquer. Que les Hébreux soient les dépositaires du monothéisme, enfin, en fin de compte, il faut dissoudre cela, il faut noyer cela par antisémitisme, bien entendu, mais enfin, on ne peut pas annuler le fait, donc il faut bien qu'il y ait un commencement. Alors voilà, le commencement, eh bien, on va inventer un monothéisme égyptien que les Hébreux auraient imité. Alors que le Midrash nous parle exactement de la chose inverse. C'est que Joseph fait tout ce qu'il peut pour monothéiser, si j'ose dire, l'Égypte. Je vous citerai d'ailleurs quelques versets avec Rachid, rapidement, on les reviendra dans le temps. Mais il n'en reste pas moins que Joseph ne peut être Joseph de l'Égypte que parce qu'il y a eu ce pharaon-là. Voilà donc un pharaon qui rêve, ça veut dire qu'il est candidat à l'identité hébraïque et il va garder une place extrêmement importante dans l'histoire de la Torah. Voilà pour ce premier point. Bien. Alors, je vais essayer, sans avoir à récapituler les événements du récit tels que le récit lui donne, je pense que vous avez en mémoire, sinon on peut le faire, mais ça nous prendrait trop de temps, de reposer cette question. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire merveilleuse ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire merveilleuse ? Eh bien, je vais m'appuyer sur un des enseignements de la Kabbalah d'ailleurs, mais en vous le montrant dans le Midrash. Je n'arrive pas encore à retrouver le lien que je cherchais tout à l'heure, enfin je crois que vous l'avez là-bas. Mais regardez ce que vous notre antérieur. Alors vous allez prendre le chapitre 42, je vais repartir d'un verset. Vous allez prendre le chapitre 42, et verset 2. On va le prendre déjà depuis le premier verset. Voilà. Je vais vous expliquer une expression qui revient souvent dans ce chapitre, mais qu'on trouve déjà au premier verset du chapitre, mais surtout au chapitre 2. Au verset 2 du même chapitre. Bayar Yaakov qui est Shever ben Israël. Et Jacob vu qu'il y avait. Et là apparaît un mot, je vais mettre au tableau si je peux, le mot de Shever. Ah, bon, je mets la main. Shever,
C'est facile de dire casser. Shbor, casser. Shaber, briser. Tout ça peut casser. Mettre en morceaux. Alors c'est l'expression dont on va se servir au niveau du récit pour dire on battait le blé. On cassait le grain. Yeshever ben Mitzrayim, ça veut dire finalement, à tous les niveaux, disons, du système économique, il y a d'abord de quoi faire marcher le moulin, hein, Yeshever. Et ensuite, par conséquent, ça arrive jusqu'à la notion de mashbir, telle que vous avez peut-être dérivée dans les pronodermes, celui qui dispose de marchandises, de quoi vendre à ceux qui doivent. À ceux qui doivent acheter. Alors, la Kabbalah, c'est un enseignement qui vient de l'Israël, a retenu l'expression qui est très souvent répétée dans ce récit. Et c'est de ce récit qu'on apprend l'utilisation de ce terme. Et pour dire qu'on a trouvé quelque chose à manger, alors qu'il y a la famine, alors on dit « Yeshever ». Littéralement, je veux traduire « il y a de la casse en Égypte ». Comment dire, il y a de la mise en bouteille, le pain et le vin. Qu'est-ce qu'on casse en Égypte? Voilà, le postulat est finalement très simple à comprendre. Là, de la casse. La graisse, oui, on casse. On peut garder derrière cette chose. Et le postulat est le suivant. Dans toute société, dans toute civilisation, il y a une partie des valeurs de l'universel humain qui est en élaboration. Seulement, elles sont enfouies, ces valeurs, dans une gangue, dans une coquille, dans une peau, dans une clipa, comme on dira en hébreu. Et alors, arrive un temps où on est occupé à casser cette clipa et ses valeurs. Se dévoile. Voilà ce qui se passe. Et ça commence à se passer au niveau de la nourriture. Vous vous rappelez que le rêve de Joseph concernait d'abord cela. Il avait déjà de blé. Et puis, il avait ce pressentiment d'une mission qui consistait pour lui à aller là où le blé pousse, à en faire des germes pour les mettre en réserve et en donner à manger à toute la terre quand ce serait un temps de famine. Alors, derrière cette image du rêve, le pressentiment qu'il y a là, est quelque chose de beaucoup plus important. C'est-à-dire que Joseph est cette dimension de l'identité d'Israël qui va aller aider à cette casse dont on vient de parler, qui se passe quelque part, et premièrement qui va y amener une fécondité, si vous voulez, et qui ensuite va mettre en réserve toutes ces valeurs de telle sorte qu'au moment de la Géoula, au moment de la délivrance, au moment de la fin de l'exil, elles puissent être enlevées du lieu de l'impureté où elles se trouvaient enfouies et être sanctifiées dans l'identité d'Israël, à titre et à l'échelle de l'universel. Parce que c'est clair, l'échelle. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jacob comprend cela, alors il se résout à laisser ses enfants descendre en Égypte. On va dire le verset. Vayar Yaakov qui est Shever ben Mitzrayim. Donc on peut de nouveau traduire ça simplement. Et Jacob vit qu'il y avait de la casse en Égypte. Bon. Ça va jusque-là? Le Midrash pose la question, comment il a vu ça? Que ça veut dire il a vu? Bon. Il a vu par le roi. Ça veut dire, il n'arrive pas encore, selon le Midrash, à savoir clairement que c'est Joseph qui travaille là-bas. Ça l'aurait rassuré. Mais ça, il le sait. Il a le pressentiment.